Bonjour et bienvenue dans la chronique Nature. Une chronique aujourd'hui en compagnie de Michel Bouche. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors Michel Bouche, en tant que technicien patrimoine et spécialiste de la faune sauvage, vous allez nous parler aujourd'hui des interactions entre faune sauvage et faune domestique. Effectivement, ces animaux, on pourrait croire qu'ils ne sont pas appelés à se rencontrer et pourtant il y a des échanges.
Oui, et depuis quelques années, la faune sauvage et en particulier les ongulés se sont beaucoup développés. Donc il y a quelques petites interactions.
Alors lesquelles, par exemple, c'est pour du bon ou pas du bon?
Alors il y a un peu les deux. Hein. Bon, déjà il y a une compétition au niveau de l'espace et de la nourriture, hein, entre les ongulés domestiques et les ongulés sauvages. Les éleveurs qui peuvent m'écouter doivent bien savoir de quoi je parle quand ils voient les cervidés ou les chamois venir brouter allègrement les luzernes au printemps alors que leurs propres troupeaux ne sont pas encore sortis de l'étable.
Ah, ils doivent partager la même assiette.
Alors ils partagent la même assiette et c'est vrai que à l'inverse, quelquefois à l'automne et en début d'hiver, quand les troupeaux sont passés, s'il reste vraiment plus rien à manger, eh ben c'est ce coup-ci la faune sauvage qui en pâtit.
Et il y a d'autres choses que finalement cette nourriture qu'il faut partager?
Oui, il faut partager un petit peu l'espace, mais c'est aussi une question de nourriture, puisque je pensais à l'exemple du tétralyre, hein, qu'on a abordé dans une autre émission, dans laquelle on disait qu'il fallait, pour sa reproduction, qu'il ait une straterbacée relativement haute. Si effectivement les moutons ont tout consommé, ça devient difficile pour lui de se reproduire.
Oui, le tétralyre ne mange pas d'herbe, mais par contre il a besoin de l'herbe.
Il a besoin de l'herbe pour se cacher, et puis c'est aussi l'herbe qui abrite les insectes qui vont permettre de nourrir les jeunes.
Alors, dans les interactions faune sauvage, faune domestique, il y a aussi de la prédation, probablement.
Alors, il y a aussi, après la compétition, la prédation. Hein, c'est un des éléments qui régule la faune sauvage et quelquefois qui, je dirais pas qui régule la faune domestique, mais qui a un impact très négatif sur la faune domestique.
Et alors, par exemple, qui mange qui?
Alors, bien sûr, tout le monde aura pensé au loup, hein, puisque les Hautes-Alpes et le massif des Écrins ne sont pas épargnés par les attaques estivales sur les troupeaux.
Il y a d'autres animaux que le loup qui...
Alors, il peut y avoir du lynx, hein, pas dans les Hautes-Alpes.
Alors, on se trouve donc avec soit des problèmes de partage de la même nourriture, soit de prédation justement où c'est l'inverse. Est-ce qu'il y a aussi des interactions génétiques?
Ça peut arriver, hein. On a le problème avec des chèvres qui ont un caractère très indépendant, comme chacun sait, et qui quelquefois ne réintègrent pas leurs étables pendant l'hiver et qui passent l'hiver à l'extérieur. Là où potentiellement il peut y avoir des populations de bouquetins, donc c'est des espèces qui sont interfécondes, qui, si l'occasion leur en est donnée, en profitent volontiers, avec le risque de transmission de maladies par voie vénérienne et aussi donc de pollution génétique entre les deux espèces.
Alors quand on parle de pollution génétique, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon? Enfin, quand on parle de pollution, c'est du pas bon généralement.
Bah, de toute façon, c'est bon pour personne, puisque les bouquetins vont récupérer des gènes qui sont pas forcément très bien adaptés à la vie en montagne. Et puis les animaux domestiques vont récupérer des gènes très rustiques avec une croissance souvent plus lente et une production plus faible.
Est-ce qu'il faut déduire de tout ce que vous nous dites que finalement il vaut mieux limiter, voire empêcher les échanges entre faune sauvage et faune domestique?
Alors dans certains cas, il faut essayer de les limiter. Hein. On parlait de pollution génétique, on pourrait parler aussi de transmission de maladies. Mais il y a quelques fois où les choses s'accordent bien. Quand par exemple les charognards, les vautours qu'on voit de plus en plus chez nous viennent consommer les animaux, les cadavres d'animaux domestiques, évitant ainsi la possible propagation de maladies et évitant certains aspects sanitaires négatifs, ou les troupeaux qui gardent un milieu relativement ouvert, qui peut là aussi être favorable à d'autres espèces, comme le tétralyre dans certains cas.
En tout cas, ce sont des choses que vous surveillez de près.
Voilà, c'est des choses qu'on suit et qu'on essaye d'appliquer à la gestion de l'espace.
Merci Michel Bouche.
Merci.